Ça y est, nous y sommes. Les athlètes sont prêts. Prêts à nous captiver. Prêts à repousser les limites pour atteindre l'impossible. Prêts à battre de nouveaux records qui résonneront dans l'histoire. Et nous serons avec eux dans les joies et les peines. Nous sommes là à chaque étape. Start your impossible. Dépassez l'impossible. Toyota, partenaire mobilité officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
C'est 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous en direct du plateau de Bayeux ce soir à l'issue de la 15e étape de ce Tour de France. C'était la 2e étape dans les Pyrénées et on a vu ce qu'on a vu. Pogacar, eh bien le cador de ce Tour de France. Il s'impose pour la 3e fois depuis le départ de la Grande Boucle à Florence il y a un peu plus de 2 semaines et il est ce soir quasiment le vainqueur de ce Tour de France. On est encore à 1 semaine de l'arrivée mais on se posera la question de savoir si le Tour est plié. Pogacar qui a été énorme une nouvelle fois aujourd'hui, qui n'a pas fait la moindre erreur de tactique, qui est restée dans la roue des coureurs de la formation Visma, qui ont décidé de visser tout au long de la journée avant que Vingegaard ne prenne le manche à quelques kilomètres de l'arrivée dans le plateau de Bayeux et avant surtout que Pogacar ne mette les watts et n'envoie tous ses adversaires très loin au classement général. On va évidemment revenir sur cette étape et sur la suite du Tour de France parce qu'il n'est pas terminé le Tour. Encore 1 semaine avant l'arrivée à Nice. Toute l'équipe de l'After est regroupée à mes côtés. Cyril Guimard a fait une belle petite sieste là. Il est bien requinqué, il a réfléchi à tout ce qui va pouvoir se passer dans cette dernière semaine. Salut Cyril.
Salut, alors j'ai fait une petite sieste, c'est normal, je ne faisais de mal à personne.
Ah non.
Et je me faisais du bien à moi-même. Voilà, et puis ensuite, ayant récupéré un petit peu, j'ai essayé d'imaginer ce qu'allait être cette dernière
semaine. Tu nous livreras le fruit de ta réflexion tout à l'heure.
Une partie.
Bah dis donc, j'espère que le reste de l'émission va être plus intéressant.
Ouais.
Que ces analyses.
Voilà, dès que j'essaye de dire des choses sensées.
C'était manifestement orageux puisque la sieste était accompagnée de ronflements.
Oui, donc, alors
quel cataclysme va arriver sur le tour.
Pour une raison très simple, c'est que j'étais allongé sur le dos.
Oui,
ah,
c'est vrai.
C'est pour ça.
Avec le ventre à l'air.
Magnifique, vous imaginez le spectacle. Jérôme Coppel n'a pas fait la sieste.
Il a pas besoin de rebondir derrière ça.
Il dort 2 heures par nuit.
Est-ce que je peux révéler un secret parce que Jérôme Coppel fait des misères au druide pendant que le druide dort.
Il fait des photos. Tu peux.
Il lui cache ses Birkenstock.
Oh non.
Ouais.
Moi
c'est pas mangeable. Il m'a caché mes chaussures, mes pilules, tout.
Tout va mal. Ça va Jérôme?
Ça va très bien messieurs. Excellent.
Tu t'es ennuyé pour avoir le temps de faire des petites blagues à toute l'équipe?
Non, mais je travaille très très vite moi. Oui, c'est à la différence de vous. Donc j'ai le temps de faire plein de choses en une heure.
Préparer l'étape de demain.
Bah, tu sais, faut regarder si les voitures auront vent dans le dos pour aller à la plage depuis l'hôtel. C'est important, savoir combien de temps on va mettre.
Mais je l'ai retrouvé mes chaussures parce que Léna qui m'aime bien m'a dit c'est Jérôme, okay. Regarde où il l'a mis.
Ok, on a compris. Arnaud Souk était sur la moto aujourd'hui, il s'en est mis plein les yeux dans cette montée
c'était
du plateau de Bayeux, c'était pas mal.
J'ai pas vu longtemps le maillot jaune mais je l'ai vu et c'était plutôt sympa.
Il y a pas grand monde qui l'a vu. Hein,
il était encore il était encore dans la route Vingegaard à ce moment-là. Il n'avait pas encore placé son
maillot. Il n'est pas resté longtemps dans la route Vingegaard, histoire de s'asperger un peu puis il a décidé d'envoyer du bois et puis Pierre-Yves Leroux. Ouais. Il dort pas beaucoup lui non plus.
Ah non, il y a pas que Cyril Guimard qui est sur le dos aujourd'hui. Il y a aussi Jonas Vingegaard qui est en difficulté sur cette magnifique étape qui nous emmenait au plateau de Bayeux.
Et pour se remettre les idées en place, eh bien on va réécouter les moments importants de ce direct que vous avez vécu cet après-midi dans l'Intégral Tour. Cette 15e étape donc où Tadej Pogacar a une nouvelle fois frappé du poing sur la table du Tour de France.
Tadej Pogacar ne s'est quasiment jamais retourné pour savoir si Vingegaard était capable de revenir.
Non, je ne te respecte pas.
Jonas Vingegaard aura été courageux aujourd'hui, mais il n'est plus le plus fort. Il ne va très certainement pas gagner un 3e Tour de France.
C'est le final de cette étape et que Pogacar va s'imposer dans maintenant 150 mètres. Pierre-Yves, ouais. La victoire du maillot jaune.
Exactement. L'exploit encore une fois de Tadej Pogacar qui a été emmené par son poisson pilote aujourd'hui. Jonas Vingegaard qui a tenté quelque chose mais qui n'a pas réussi. Tadej Pogacar qui s'impose pour la 2e journée de suite et qui vient assommer le tour, qui va mettre 1 minute d'avance à Jonas Vingegaard qui lui va prendre de l'avance sur la 3e place. Le classement est quasiment fait. Jonas Vingegaard dans le dernier kilomètre. Tadej Pogacar qui s'impose aujourd'hui au plateau de Bayeux.
C'est juste, c'est les émotions.
C'est une heure de foot là, il pouvait pas reparler maintenant. Voilà, cette 15e étape du Tour de France, remportée donc par Tadej Pogacar. On s'est régalé. Enfin, est-ce qu'on s'est régalé aujourd'hui? Parce que tout semblait cousu de fil blanc, non?
Oui.
C'est pas un peu votre avis?
Bah, c'est un peu notre avis. Après, on a quand même cru à une échappée. Alors, on a vite vu que Visma avait d'autres ambitions, mais finalement, l'échappée, c'est pas laissé faire. On a cru que peut-être ça allait pouvoir le faire. Et puis, Vingegaard a essayé. On ne sait jamais. Est-ce que Pogacar peut avoir une journée sans ? En tout cas, c'était pas aujourd'hui. Ouais. Après, dans ce qu'on avait imaginé, bon bah voilà, c'était ça. Vingegaard allait rouler pour essayer d'éliminer Evenepoel et éventuellement Poggi par la même occasion, ça n'a pas été le cas. Et si Poggi était bien, il allait contrer Vingegaard. Oui, c'était sans grande surprise. Après, les écarts, peut-être un peu plus.
Cyril, tu as été surpris. Alors, c'est vrai qu'on a vu rouler la formation de Vingegaard, la Visma Lisebike, pendant la quasi-totalité de l'étape. On se disait peut-être que Vingegaard en a dans les jambes. Il en avait, mais il en avait moins que l'autre, forcément.
Oui.
Et il le sentait qu'il en avait moins que Pogacar, qui a semblé d'une sérénité totale tout au long de l'étape. C'est vrai qu'après l'étape du Lioran, il était peut-être un peu inquiet, mais hier, il a retrouvé toute sa sérénité. Il était tranquille comme Baptiste.
Oui, et Pierre-Yves l'a rappelé tout de suite, il ne se retournait pas aujourd'hui. Alors, c'est vrai que hier, lorsqu'il est parti, pendant un certain temps, il a observé le plus souvent possible Vingegaard. Aujourd'hui, quand il est parti, il n'y avait pas de surprise. Et Vingegaard savait que de toute façon, il allait se faire enrhumer. Ce qui nous a un petit peu surpris, et peut-être ce qui fait qu'on a peut-être le sentiment qu'on aurait aimé voir autre chose, c'est qu'il y a cet échappé qui part au départ, avec Godu dans un premier temps, mais c'est le deuxième contre qui va partir, où on avait deux Français, entre autres Lenny Martinez, et on s'est mis à rêver que cet échappé s'en aille. Mais Vingegaard avait décidé une autre stratégie aujourd'hui. Il a fait rouler toute la journée son équipe. Alors, la question que l'on se posait, et Jérôme l'a posée très clairement, est-ce qu'il court maintenant contre Pogacar, ou est-ce que son seul problème, c'est de mettre hors jeu pour la deuxième place Evenepoel? Et je crois qu'à l'arrivée, on a la réponse.
On l'écoutera tout à l'heure, Jonas Vingegaard, qui s'est montré plutôt satisfait de sa performance aujourd'hui.
C'est comme, vrai hier.
Comme hier. Il est, je ne sais pas si c'est de la langue de bois, s'il le pense vraiment.
Un petit peu quand même.
Peut-être un peu quand même. Tadej Pogacar, donc, qui est vraiment cette année, on le retrouve comme à ses débuts dans le Tour de France, lorsqu'il avait remporté son premier tour en déposant Roglic dans le chrono de la planche des belles filles, puis sa deuxième victoire l'année d'après.
Je dirais surtout sur le deuxième tour.
Ouais. Parce que le premier, il avait décroché le maillot jaune la veille de l'arrivée.
Oui, c'est ça, il apparaît un peu, personne ne pense qu'il est capable de gagner le tour, ouais. Donc on le surveille un petit peu moins. Sur le deuxième, on voit qu'il est tranquille, voilà, il est totalement à sa main, et ça y ressemble beaucoup à ce deuxième Tour de France. Et aussi, moi je commence à trouver que ça ressemble un peu au Giro quand même, hein, parce que l'opposition, elle commence à être loin.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une domination outrancière comme il l'avait fait sur le Giro ?
Bah alors autant que
alors le que le plateau Giro, n'est pas le même.
Ouais,
hein.
Autant que le Giro, je n'irai pas jusque là, mais ça commence à y ressembler. Il reste quand même une semaine de course, ça pourrait ressembler
et des
étapes très difficiles, c'est vrai. Et je me suis posé la même question. Alors l'adversité est beaucoup plus haute sur le papier, mais finalement Pogacar est encore au-dessus de la mêlée. Ok, Vingegaard n'est pas au niveau qu'il devrait avoir. On n'a pas les deux au top niveau. Enfin, on a Pogacar au top niveau, mais on n'a pas Vingegaard au top de son niveau. Voilà, mais c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que le Giro allait le fatiguer, allait poser des problèmes pour gagner le Tour de France ? Apparemment pas, puisqu'il le domine encore encore de la même manière que lors de sa deuxième victoire sur le Tour.
Au sort de la 15e étape sur le Giro, il avait 6 minutes 41 d'avance sur Geraint Thomas. Bon là, il a quand même beaucoup moins sur Jonas Vingegaard, et c'est un adversaire encore d'un autre calibre. J'attendais moi de voir personnellement les Pyrénées pour donner voilà des on va dire des états de forme des uns et des autres. Je pense que Pogacar a pris une très sérieuse option sur le tour. Après 3 minutes, voilà, il reste encore quand même quelques étapes de montagne et on ne sait pas ce qui peut se passer. Pogacar a quand même quelque chose de commun à tous ces tours, c'est qu'il a quasiment systématiquement toujours connu une défaillance d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc est-ce que ça peut encore pas. Est-ce que c'est impossible
alors,
que ça
dans,
arrive
pas dans le Giro, moi, de.
Pas dans le Giro, moi,
ça s'est pas vu.
Mais en tout cas, dans tous les tours, ou quasiment tous les tours, il y a eu un moment où il a perdu du temps.
Mais tous.
Oui, ça s'explique parce que la première année, la tactique de la Visma l'a peut-être fait dérailler et l'a détraqué psychologiquement. Et et la deuxième année, il y avait ce manque de préparation dû à sa blessure et puis le coup au moral subi après le chrono. Là, pour l'instant, il y a eu cette petite hésitation, effectivement, après le Lyon, mais oui, tout se passe
c'est peut-être
comme
ça,
sur un tableau noir, quand même. Hein,
oui, oui. Enfin, le Lyon, c'est quand même une défaillance.
Ouais, c'est peut-être là.
Parce que si on prend toutes les autres étapes, si on prend les deux étapes des Pyrénées, la sanction a été claire, c'est une minute par jour.
Le Galibier, c'était un peu moins, mais bon.
Un peu moins, mais la course n'était pas la même, le parcours n'était pas le même.
C'était pas une arrivée au sommet, mais il a attaqué tard dans le Galibier.
Si on prend les quatre dernières étapes de montagne, ça peut faire 4 minutes.
Voilà. Et le chrono ?
Le chrono, ça peut faire 5.
Voilà. Et donc, on se rapproche des 10 minutes.
Des 5 et 3, 8.
Oui. Ce qui serait assez incroyable.
On va écouter tout de suite Tadej Pogacar. Grand sourire, évidemment, sitôt la ligne d'arrivée franchie. On est loin du masque qu'il avait au soir du Lyon. C'était mercredi dernier. Le sentiment du devoir accompli. Il est le patron du Tour de France et il nous raconte son étape. On l'écoute.
Je n'aurais jamais imaginé ce genre de résultat après le début de la deuxième semaine. Donc je suis super content de ma forme. Aujourd'hui, il faisait super chaud et c'était vraiment une journée difficile. D'habitude, j'ai toujours du mal avec la chaleur et aujourd'hui, l'équipe a fait un super travail pour me rafraîchir. C'était une journée incroyable. Maintenant, ça semble vraiment bien. Je disais cela quand j'avais déjà 1 minute 14. Maintenant, c'est vraiment, vraiment bon avec une avance confortable et nous devons juste rester concentrés les 6 derniers jours. Gardons cette mentalité comme nous l'avons toujours eue pour bien conclure la semaine prochaine.
Voilà, il parle de conclusion la semaine prochaine, effectivement. Voilà, on est déjà dans la conclusion du tour pour Poggi. Il n'a plus qu'à mettre la balle au fond, là. Il est devant la ligne, paf, plus qu'à pousser le pied.
Hein. Oui, c'est un pénalty sans gardien.
Sans gardien.
et après, on en revient encore au débat qu'on avait ces derniers jours. C'est est-ce qu'il doit maintenant être attentiste et ne pas écraser vraiment le tour, comme tu le disais, prendre une minute à chaque étape de montagne, ou bien, connaissant son état d'esprit, de faire le show, de faire le spectacle, de vouloir être devant, d'être un cannibale, on en reparlera peut-être tout à l'heure, eh bien, est-ce qu'il va continuer à mettre une patte d'ours, puisqu'on est ici en Ariège sur le.
Il a toujours eu un appétit insatiable, ce garçon-là.
Oui, mais c'est bien d'avoir de l'appétit. Regarde, toi, t'as beaucoup d'appétit aussi.
On n'est même plus dans l'appétit.
Aujourd'hui. Il a pris.
Je n'en peux plus de vous.
Aujourd'hui, si vous regardez bien, d'ailleurs, il remercie pas son équipe pour le travail qu'elle a fait dans le contrôle de la course, dans la direction de course, dans le fait d'avoir fait des tempos. Il remercie son équipe parce que son équipe lui a permis de se rafraîchir, de se ravitailler. C'est-à-dire qu'on est. Il est même plus dans la course. Ils ont été super sympas.
Il y a une bonne ambiance.
Ils m'ont amené les petits fours, la petite bière bien fraîche. Voilà, mais c'était formidable. Mais c'est vrai que Vingegaard n'était plus dans la course du maillot jaune. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur ces 4 derniers jours de montagne? C'est ça qu'il faut essayer d'imaginer. Pour que nous, on reste concentrés.
Aujourd'hui, excuse-moi Christophe, mais à la différence des autres étapes, ils ont été plutôt défensifs, UAE. Alors, ils n'ont pas eu besoin de partir. C'est Visma qui a fait le boulot. Après, c'est Vingegaard qui a travaillé. Et là, il a vu qu'il était au-dessus de Vingegaard. Il y a été parce que ses jambes répondaient bien, parce qu'il y avait l'opportunité. Et il a pris une minute. Mon avis, c'est un peu la stratégie qu'ils vont utiliser jusqu'à Nice maintenant.
Logiquement.
Tu as 3 minutes d'avance. Si Visma recourt comme ça, il reprend 30 secondes, 45 secondes par-ci, par-là, puis il sera vite à 4 minutes.
Très bien, on va s'intéresser à la suite de ce Tour de France dans un instant, mais on va accueillir tout de suite Nicolas Pelletier parce qu'il a des informations concernant les droits de la Ligue 1. Cette fois-ci, oui, la fumée blanche est sortie de la Ligue, Nicolas. Salut, Nico.
Salut à tous. Oui, la fumée blanche est sortie. On sait qui seront les deux diffuseurs de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Ça sera DAZN, le média anglais qui vient d'acquérir 8 des 9 rencontres de Ligue 1. Et beIN Sports diffusera un match par saison. On le dit, il tourne autour de 500 millions d'euros pour les clubs de Ligue 1, très loin des 900 millions d'euros espérés. Et ce qui intéresse le plus le consommateur, c'est le prix de l'abonnement. On parle d'un abonnement pour DAZN, 8 des 9 matchs, de 30 à 40 euros l'abonnement par mois. Il faudra ajouter à cela 15€ d'abonnement pour Bein Sport pour suivre la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Donc voilà, on connaît maintenant les deux diffuseurs de la Ligue 1 pour la saison prochaine et les clubs sont un peu plus sereins pour préparer le mercato.
Ils sont sereins, mais
avec
non,
moins d'un
40€. Nico se trompe, c'est par an.
C'est pas c'est par an, Nico.
Non, c'est bien par
c'est
mois,
par saison.
Messieurs.
Donc c'est bien ça, par oui, mois. 30 à 40 euros plus 15 euros, mais c'est complètement injouable. Enfin,
j'écouterai RMC.
De toute façon, il faut écouter RMC, bien sûr.
Évidemment. Très bien. Donc, pas de chaîne, puisque ça a été longtemps sur le devant de la scène, cette chaîne qui aurait été créée par la Ligue, où auraient été diffusés tous les matchs. Finalement, ils ont renoncé par peur du fiasco, là aussi,
exactement,
peut-être.
Exactement, il n'y avait pas assez de garanties financières, notamment pour la première saison. Nasser Al-Relaifi, le patron du PSG et de Bein Sport, n'en voulait pas. Et donc, ça sera DAZN et Bein à partir du mois d'août pour la reprise de la Ligue 1.
Très bien, et merci beaucoup Nico, j'imagine qu'on développera tout ça un peu plus tard sur l'antenne d'RMC, donc DAZN et Bein qui vont récupérer les droits de la Ligue 1, et le téléspectateur, bah, lui, va devoir sortir son porte-monnaie. On revient sur le Tour de France, le seul spectacle gratuit, hein, gratuit à la fois sur les routes, puisque vous pouvez venir au bord de la route admirer les coureurs, et également à la télé, puisqu'il ne faut pas payer pour voir le Tour, et non plus pas payer pour l'écouter sur RMC.
Ouais.
Voilà,
et une ambiance incroyable, c'est vrai que c'est la fête, quoi.
Alors, c'est la fête, mais est-ce que ça va être la fête encore pendant une semaine? Est-ce que ça va vraiment être la fête? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on s'ennuie ferme durant cette dernière semaine? On n'a pas été habitué ces dernières années à ce genre de choses, puisqu'on rappelle l'année dernière, le Tour s'est joué en dernière semaine. Jusqu'au matin du chrono, il n'y avait que très peu d'écart entre les deux cadors. Là, on est à 3 minutes. Je veux dire, a priori, le suspense, à moins, je le sais, d'une catastrophe, d'une météorite qui tombe sur le Tour de France, d'un Covid généralisé ou d'un pangolin nouveau qui viendrait, polluer le Tour de France.
Ou des ours qui nous attaquent.
Ah ouais, mais bon, on va vite redescendre des Pyrénées quand même. Oui, donc là, il faut se dépêcher, les ours.
Là, tu parles pour le classement général.
Oui, pour le classement général.
Des victoires d'étape. On devra avoir un peu de bataille.
Oui, mais Jérôme, l'intérêt principal du Tour, c'est de savoir qui va l'emporter.
Oui, mais
quand on a vu le tracé du Tour, quand on a vu ce tracé avec ce contre-la-montre lors de la dernière journée, on rêvait d'une bagarre à quelques secondes près. Alors, c'était peut-être un rêve impossible. Mais voilà, le rêve s'est envolé aujourd'hui. A priori.
Bien sûr, bah oui, là le rêve s'est envolé. Je pense que pour le podium, c'est compliqué. Mais des fois, tu regardes un film, tu as compris la fin, mais tu vas quand même au bout du film. Bah voilà, là, le truc principal, c'est mort, mais il y a quand même des étapes à aller chercher, puis des belles étapes. Il reste quand même une belle semaine.
Mais c'est vrai que les classements des maillots distinctifs,
tout est joué
partout. Oui, bah c'est même joué partout, effectivement. Hein, on peut aller chercher le super combatif, peut-être. Ouais. En revanche, pour les
c'est
victoires
d'étape, c'est peut-être joué
d'étapes,
aussi d'ailleurs.
Oui, il reste du spectacle, mais je crois que on l'a dit pendant le direct, ça s'est joué en fait début avril, hein, avec ce tracé qui était magnifique, mais à partir de cette chute autour du Pays Basque, eh bien la donnée n'était plus la même.
Jusqu'au 3 avril au soir, Vingegaard était le favori du Tour de France.
Ah bah oui.
Surtout avec Pogacar qui enchaînait Giro et Tour.
Clairement.
Tout le monde pensait que Vingegaard, qui avait déjà mis deux baffes à Pogacar, allait lui en mettre une troisième. Évidemment, les choses ont changé.
Le vélo, c'est ça aussi.
Et oui, c'est pas que le Tour de France, c'est la préparation.
C'est les courses avant. C'est des fois, même sans chute, la préparation n'est pas bonne et on se plante. Il y a des chutes, il y a d'autres courses à faire avant. Et des fois, il y a des défaillances sur le Tour. Pogacar est au-dessus et c'est comme ça. Si vous voulez qu'on dise.
Mais moi, vraiment, j'aime le visage aujourd'hui de Vingegaard qui montre du courage. Franchement, on l'a vu.
Ah oui, non, mais
il a rien à perdre.
C'est un viking. Hein. Voilà. Il n'a pas une allure de viking, mais dans la tête, il est quand même.
Et donc, je pense qu'il va continuer quand même à essayer de se bagarrer parce qu'il se dit, avec Remco, il faut encore essayer de creuser. Donc, on va avoir des attaques de classement. Quoi.
Et puis, Visma Liseberg ont une victoire d'étape. Ils vont peut-être vouloir aller en chercher une deuxième. Il y a encore des enjeux.
Et puis, les UAE vont vouloir peut-être offrir une victoire au lieutenant, à Damietz et à Almeida. Donc, il va se passer des choses encore.
Eh bien, on l'espère. Parce qu'on est encore là pendant une semaine.
Je suis heureux de votre optimisme.
Oui, tu ne partages pas notre optimisme.
Non, pas sur ce plan-là. Je vais même aller plus loin et me poser une question, parce qu'il paraît qu'il faut apporter quelque chose dans le débat.
avec ton salaire
et si le tour avait été mal construit avec ces quatre étapes pour terminer.
Ah, ben on en parle dans un instant. C'est un bon débat que tu lances, Cyril. Il est 19h19, vous écoutez l'After Tour. On revient dans un instant, toujours en direct du plateau de Beille. La faute, le manque de suspense finalement dans ce Tour de France,
il a lu mon conducteur, je crois.
Il préfère rester vierge de toute influence. A tout de suite sur RMC, on revient dans un instant.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Et nous sommes en direct du plateau de Beille où les gros bus et les gros camions qui accompagnent le Tour de France sont en train de quitter la zone d'arrivée en direction du bas de la descente. Il va y avoir beaucoup de monde.
Pour notre plus grande joie.
Oui. Il va falloir être enquillé derrière eux. Par contre, les coureurs, hein, Arnaud, sont déjà partis depuis un moment.
Avec leur petit sifflet, ils sont redescendus.
Direct. Ils ont franchi la ligne.
Petit toilettage en haut, petit séchage. On remet une petite veste. On met un sifflet autour du cou avec le même tour de cou que nous, là, jaune, et on descend en sifflant pour éviter. Enfin, Jérôme connaît ça.
C'est un moment agréable, ça, Jérôme, de redescendre parmi la foule, là, comme ça, les gens qui t'encouragent encore dans le sens inverse.
Ouais, c'est agréable, mais c'est dangereux. C'est vraiment dangereux.
Ah, ça, c'est le sifflet de Cyril.
Troisième mi-temps pour Cyril, c'est parti, fin du match. c'est toujours un moment agréable. Faut quand même faire attention parce que, suivant quand vous arrivez, il y a encore des coureurs qui montent, il y a les spectateurs qui pensent pas forcément qu'il y a des coureurs qui redescendent, donc ils sont au milieu de la route pour encourager ceux qui montent. Voilà, moi, à mon époque, il y avait pas de sifflet. Il y avait quand même eu quelques gamelles, des fois, en redescendant des cols comme ça. Mais c'est toujours un bon moment, quoi.
Ou Froome qui s'était fait bloquer par la police.
Ah ouais. Oui, par un gendarme. Il a failli finir
incroyable,
au poste.
Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le tour de cou jaune pour que les policiers, notamment, puissent voir que ce sont des coureurs.
Et un brassard aussi.
Un brassard, exactement.
Très bien. Et ensuite,
tous capitaines.
Les bus les attendent au pied de la descente et les ramènent à l'hôtel. Il va falloir faire un petit bout de chemin quand même, parce que la journée de repos ne se passe pas au pied des Pyrénées. Hein.
Ah oui, puisqu'on est à Gruissan à la journée de repos, donc il y a 2h30 de route, on va dire.
Ouais, alors
dans ces eaux-là, je sais pas si
ça perturbe un peu les habitudes des coureurs.
Ouais, hein. Alors une journée comme aujourd'hui, c'est, on va dire, un petit peu moins grave, parce que demain il y a la journée de repos, mais hier par exemple, l'équipe Intermarché Wanty a aussi été prise dans les bouchons en repartant de Saint-Lary-Soulan. Ils sont arrivés à 21h30 à l'hôtel, encore manger, faire les massages.
On peut pas faire les massages dans le bus, il y a pas de table de massage dans le bus.
C'est compliqué,
ça bouge un peu.
Si vous avez un chauffeur comme Pierre-Yves Leroux, en plus, vous risquez de chuter de la table.
Par contre, si vous avez un masseur comme Cyril Guimard, c'est parfait.
Ouais, qui dort et qui ronfle à côté, vous allez avoir un bon massage.
Alors, revenons sur ce Tour de France. Cyril, tu nous as mis l'eau à la bouche il y a quelques instants en nous expliquant que le parcours finalement de ce Tour, avec toutes les difficultés finalement, enfin l'essentiel des difficultés rassemblées en fin de Tour, était peut-être une erreur des organisateurs. Pourquoi ? Explique-nous
ce que
tu veux dire.
Je ne dis pas que c'est une erreur, il faut qu'on réfléchisse à ce genre de choses, puisque... alors quand on a eu que deux étapes de montagne et le Galibier, on arrive à des écarts plus importants que lorsqu'on a un tour, on va dire, classique, avec dans un premier temps soit le Massif Central, soit les Pyrénées, soit les Alpes, mais c'est beaucoup plus, les étapes de montagne sont beaucoup plus dispatchées sur les trois semaines, alors que là...
Mais si ça avait été plus dispatché, il y aurait eu les écarts encore plus tôt, non, Cyril ?
Je ne sais pas, parce que...
Cyril, j'ai un exemple à te donner, le Tour de France 2020, c'était quasiment la même configuration, avec cinq étapes de montagne et le chrono dans les huit dernières étapes. Et au final, on a eu un rebondissement à la dernière étape, enfin à l'avant-dernière étape. Donc, c'est pas forcément le parcours qui est.
C'est les forces en présence qui.
C'est
qui
les forces en présence.
Ouais, non, aussi. Je ne nie pas, mais. Et c'est aussi peut-être. On peut se poser la question.
Et c'est aussi peut-être la façon dont les coureurs ont fait la course, parce que on l'a dit et répété. Quand même, les trois étapes soi-disant de transition qu'il y a eu, que ça soit dans le Massif Central et ensuite les deux étapes vers les Pyrénées, ils se sont quand même beaucoup donné. Ça explique aussi peut-être de la fatigue.
Enfin, après, on se disait qu'en rentrant en France, en partant d'Italie, le Tour serait peut-être plié. Il n'était pas à ce moment-là, parce que les deux premières étapes étaient ultra difficiles. On s'attendait à voir Pogacar attaquer. Le parcours, je sais pas, pour moi, il n'a pas d'influence là-dedans. Parce que si on avait eu Vingegaard au top de sa forme, peut-être que c'est justement ces 3-4 dernières étapes qui auraient fait la différence.
Oui.
Là, il y a aussi des circonstances.
Il a été conçu avec le postulat de départ que les deux hommes arrivent en même état de forme au départ.
Bien sûr. Et puis bon, Pogacar est au-dessus du lot, il tue le tour maintenant. Mais bon, les organisateurs, ils ne peuvent pas le savoir quand ils vont tracer le parcours. Ils essaient justement de faire une dernière semaine qui est hyper alléchante pour avoir de la course.
Mmh. Mmh. Et ce qui était intéressant, c'était les étapes Europe en Italie qui ont permis d'avoir un spectacle absolument extraordinaire et qui a aussi permis aux échappés d'aller à l'arrivée et de permettre aux Français de se mettre en évidence. Pour nous, c'était absolument extraordinaire. Ensuite, on a eu une semaine avec les chemins blancs. Ouais,
je vois où tu veux en venir. Il faudrait presque organiser un tour avec des étapes de moyenne montagne où il y a moins de différence finalement à l'arrivée. Et où, comme au Luron, par exemple, ou comme au Galibier où il y a eu juste un col à passer et ensuite
mais souvent, c'était l'arrivée ces étapes-là, la descente.
Je comprends pas.
Mais on ne demande pas de comprendre.
Bah, ça serait quand même intéressant que je puisse comprendre. On passe notre temps à dire c'est génial d'avoir de la lutte en haute montagne. Et là, pour le coup, on a quand même deux garçons qui nous se mettent des peignées depuis des années en haute montagne et c'est extraordinaire. Je veux dire, on va quand même pas se plaindre. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même le rêve de tout organisateur, je pense, d'une compétition, d'avoir le genre d'étape de montagne qu'on va avoir la veille de l'arrivée sur le Tour de France. D'habitude, c'est pas possible parce que le Tour arrive à Paris. Moi, je peux vous dire, par exemple, Christian Prudhomme, il est quand même... Alors, OK, il vend son produit, mais il est quand même parfaitement satisfait. Et je pense que nous aussi, on l'est dans l'absolu, d'avoir les deux étapes sprint en montagne qu'on va
avoir. Est-ce que tu penses que Christian est complètement satisfait ce soir? Parce que ils ont un peu tué... Enfin, Bocchi a un peu tué le game.
Ouais, mais c'est ça, c'est Pogacar et son équipe qui ont tué la course.
Ouais, après, bien sûr, les organisateurs n'y peuvent rien.
Qu'est-ce que le parcours vient faire là-dedans?
Moi, j'ai une autre proposition. Combien de fois, sur les 50 dernières années, la troisième semaine a été intéressante? Je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on doit être à 6, 7 fois sur 50, à peu près. Pas plus.
La troisième semaine ou vraiment les derniers jours du Tour?
Non, la troisième semaine. La plupart du temps, quand on arrive à la dernière journée de repos, c'est déjà quasiment joué. Voilà.
Ouais, donc peut-être. C'est l'exception. C'est l'exception.
Non, mais
que le Tour se joue dans les derniers jours.
Mais je sais bien que c'est du business. Mais pourquoi on n'aurait pas des courses de 15 jours où on aurait une intensité véritable?
Ça ne changera rien.
Peut-être que si, il y aurait plus de fraîcheur.
Bah plutôt, les écarts se seraient faits plus tôt, parce que le parcours serait tracé différemment. Mais là, tu vas toucher à l'histoire du vélo, les grands tours.
Alors, on ne peut pas toucher à l'histoire du vélo.
Pourquoi pas un grand tour, c'est 3 semaines.
Mais pourquoi?
Dans d'autres sports, on essaye d'amener des choses.
Mais oui, faut peut-être.
Le football, c'est toujours 90 minutes.
Mais il y a plus d'équipes qu'avant.
Il y a la VAR maintenant.
Mais là, c'est internationalisé maintenant. Mais n'importe quoi.
Internationalisé, c'est pas internationalisé.
Du coup, on te l'a prouvé. Quand tu dis que si on le fait sur 15 jours, les coureurs sont plus frais, et tous les jours, on est en train de dire les coureurs sont cramés. Alors, 15 jours ou 3 semaines, ça change quoi?
Et après, on va dire, le mec a gagné le Tour de France, c'était un Tour de France au rabais, il faisait 15 jours, alors qu'à mon époque, ça faisait 3 semaines.
On ne compare pas avec l'avant-guerre, parce qu'il n'y avait pas de bitume.
Tu fais que comparer tout le temps, la preuve.
Il ne fallait pas bitumer les routes, alors. Soyons cohérents.
Ils n'ont pas bitumé les routes pour que le Tour de France passe, ils ont bitumé pour les voitures, pas pour le Tour de France.
Ils refont la route à chaque fois que le Tour de France...
Non, par contre, ce qu'ils devraient faire...
Avec notre argent, en plus.
Ce qu'ils devraient faire, moi, j'ai une idée, c'est que le ASO devrait pas dévoiler le parcours du Tour. Le soir, on devrait connaître l'étape pour le lendemain.
Ça serait pratique au niveau organisation. Surtout pour réserver les hôtels.
Le resto,
pour revenir à ce que...
C'est Jérôme.
Parce que là, vous commencez à dire un peu...
parce qu'on ne peut pas toucher à l'histoire.
Mais attends. C'est pas ça le problème. C'est que Prudhomme et le staff d'organisation du Tour de France... Ils essayent de bâtir un tour pour qu'il y ait le plus de suspense jusqu'à l'arrivée.
Le plus longtemps possible.
C'est ça leur objectif. Essayer de mettre en place ou d'équilibrer les parcours.
Ils se plantent à 80%.
Ils se plantent à 95%. Regardez le Tour d'Italie l'an dernier. On a fait le plus grand tour au niveau des difficultés. Les coureurs se sont adaptés aux difficultés et tout s'est joué le dernier jour dans un contre-la-montre. Bon, on a encore un contre-la-montre pour finir le tour. Ces 4 dernières étapes, et la question que je posais on peut se poser la question de... si Pogacar, il se met dans la tête... comme il l'a fait sur le Tour d'Italie où il se baladait. Là, il risque de se balader de la même façon parce que pour Vingegaard, il ne va pas remettre l'écran. Donc, il peut aller chercher les 4 victoires d'étape. C'est-à-dire qu'il demande à ses équipiers de rouler. Il n'y aura plus d'échappés qui iront au bout. Et en fait, nous serons les narrateurs d'un exploit inouï d'un coureur qui est peut-être
avec Merckx et deux ou trois autres, le plus grand champion de l'histoire, et il voudra marquer l'histoire et aller chercher les quatre dernières épreuves, puis il fera cadeau à Evenepoel du contre-la-montre, ce qui n'est même pas encore tout à fait sûr. On peut avoir ce genre de choses, mais ça se deviendrait intéressant dans la façon dont on peut, nous, le ressentir, et les spectateurs, le ressentir. T'as dit cannibal, oui, non, là, on n'est plus dans un phénomène de cannibal. Écoute, tu prends les plus grands joueurs, par exemple, de tennis, ils gagnaient tous les grands chelems. Aujourd'hui, Wimbledon a été gagné par un jeune, il voudra peut-être faire plus que presque tous ceux qui l'ont précédé. Mais... Pogacar, rappelez-vous, on a toujours dit, c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire. Donc s'il veut faire ça, désolé pour les équipes françaises, on ne va pas les chercher de gagne. Hein.
Et puis surtout, quand tu es coureur comme Pogacar, tu veux gagner le Tour, lui il s'en fout du suspense, au contraire. Plus vite il peut le tuer, plus vite il se met à l'abri d'une victoire d'étape.
Il
en a
rien
à foutre que nous on se fasse chier devant la télé. Hein. Lui, il veut prendre ses 3-4 minutes, avoir son matelas et être sûr de gagner le Tour.
Sauf que quand tu arrives dans une finale de Grand Chelem, il reste toujours un peu de suspense.
Ouais, on l'a vu aujourd'hui.
Là, désolé, mais Djokovic,
Roland Garros, est-ce qu'il y avait du suspense avec Nadal?
Mais dans une finale, on le dit, sur un match, tout peut se passer.
Oui, mais pas pour Nadal.
Alors que là,
et pour
quand
Pogacar,
on arrive,
non plus.
Quand on arrive à la dernière journée de repos, très souvent, on se dit, en fait, c'est plié. Est-ce que le tour est joué? C'est toujours la même question. Ça fait 17 ans que Christophe Cessieux me pose la même question.
Bon, l'année prochaine, on revient que les 15 premiers jours.
Voilà, exactement.
Et on s'en va au bout de 15 jours. Alors, Poggi en est donc déjà à 3 victoires. Il a égalé son record. Il a déjà fini 3 Tours de France avec 3 victoires, un autre avec 2 victoires. Il pourrait donc, si on en croit Cyril, vouloir exploser les records avec 4 étapes donc, qui vont s'achever en altitude, plus le dernier contre la montre. Mais là, peut-être que Remco le privera d'une victoire. Quels sont les plus grands records, justement, sur un Tour de France pour les grands champions? Je ne parle pas des sprinteurs, mais les Merckx, les Hino et autres copies.
La difficulté dans ce type de comparaison. Non, on le met pas.
On le met pas lui.
Non. La difficulté dans ce type de comparaison, c'est évidemment qu'on pose un regard sur des périodes différentes. Comparer les années Pogacar avec celles de Merckx, par exemple, c'est oublier qu'à l'époque du cannibal, c'était un peu plus facile de gagner une course. J'attends de voir la réaction de Cyril. Mais quand le Belge remporte 8 étapes en 70
étapes.
Ou 74 sur le Tour de France, il y a des contre-la-montre individuels et par équipe. Il y a des demi-étapes. Il y a une opposition qui est un petit peu plus faible. Mais avec 3 victoires.
Un jour, il a gagné avec 8 minutes d'avance. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. C'était un grand champion, oui, évidemment.
Mais les écarts étaient plus grands à l'époque de Merckx.
Oui, bien sûr, mais l'opposition était peut-être un peu plus faible, même sûrement. Avec 3 victoires depuis le début de ce tour, Pogacar est encore loin de Merckx, Martens et Pellissier, je vous le rappelle, qui sont vainqueurs donc de 8 étapes. Ils sont tous les 3 sur un même tour. Et il est encore loin de Hino, qui est à 7, et Ocaña avec 5. Mais là, ce chiffre semble... pourquoi pas, accessible, hein. Cette année, 5, c'est possible. Aujourd'hui, Tadej Pogacar, en revanche, est entré dans l'histoire, messieurs, car au plateau de Bay, le Slovène est devenu le recordman des vainqueurs sur les étapes de montagne dans le Tour de France. 11 victoires, c'est une de plus qu'Eddy Merckx, c'est vraiment une marque de passage importante à seulement 25 ans. Et s'il s'impose dans une semaine, il sera aussi le plus jeune vainqueur de 3 Tours de France. À 25 ans, Miguel Indurain n'avait toujours pas remporté la grande boucle.
Ouais. Louison Bobet non plus.
Oui, là on est Indurain qui en a
gagné 5 sur les quintuples, ouais.
Ok, il va égaler le record de Cagna, peut-être aller plus haut. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que son appétit va continuer à marquer le Tour de France dans les jours qui viennent?
Je pense pas qu'il manque d'appétit, bien au contraire. Et puis les succès, ça emmène, hein, ça dynamise.
Pour les sprinteurs, c'est le cas, mais c'est la même chose pour les vainqueurs du classement général. C'est le même état d'esprit.
Vous savez, tous les grands vainqueurs de Tour de France qui arrivent à 5 victoires, souvent quand ils arrivent à 5 victoires, ils ont déjà atteint un certain âge, et c'est la démotivation qui commence à se produire, la fatigue, le pouvoir, comme on dit souvent, le pouvoir use, et à un moment, c'est remettre la pression pour un tour supplémentaire, et c'est ce qui fait que Indurain, alors qu'il pouvait gagner un 6e tour, a littéralement explosé. Mais on le savait déjà avant le départ, puisqu'il est arrivé, il n'était pas prêt, et ça se voyait rien qu'à son mollet. On s'est dit, il a décroché. Bernard Hinault aurait pu en faire plus, mais il a eu quelques blessures qui l'ont arrêté. Et après avoir gagné son cinquième tour, là aussi, la tête a débranché. Vous savez, c'est dur de rester le maître d'un peloton pendant tous les jours d'un Tour de France et pendant 5, 6 ou 7 Tours de France. C'est extrêmement usant.
Ouais, mais Pogacar, il a quelque chose que n'avait pas, je pense, Indurain. Il a Vingegaard. Moi, je reviens encore sur le fait que ces deux-là se livrent une bataille absolument extraordinaire et que je ne suis pas convaincu qu'on n'ait pas encore une bataille de fou l'an prochain. C'est peut-être ça qui va le motiver finalement.
Non, mais
Pogacar,
quand tu te bats pendant des années,
le duel magnifique,
voilà,
les champions,
ouais. Ils se tirent tous les deux vers le haut.
Et l'an prochain, je pense que Vingegaard, il va, si tout va bien pour lui, il va avoir envie de.
Pour revenir à ta question,
ça c'est.
Donc pour, ça, je pense pour, que l'usure, tu vois, pour, est moins, pour, le, non, pour l'année, moins, ouais, moins importante.
Pour l'année prochaine, on sera qu'au quatrième tour possible. Oui. On ne sera pas arrivé au cinquième.
Pour revenir à ta question, bien sûr, moi je pense qu'il veut aller chercher une quatrième victoire et pourquoi pas une cinquième. Tu dis les sprinteurs, quand ils gagnent, ils ont encore plus d'appétit, mais c'est pareil pour quelqu'un qui joue le classement général. Et c'est peut-être encore plus grisant. Imaginez, lui, il a 5 km où il est avec son maillot jaune, il profite de la foule. Les sprinteurs, ils ont 100 mètres et il lève la ligne, il lève les bras après la ligne. Lui, je n'ose pas imaginer la sensation qu'il a quand à une minute d'avance, à 3 km de l'arrivée, tu prends tous les encouragements de la foule et vous êtes dans un cadre majestueux comme ici au plateau de Baye, bien sûr qu'il veut remettre le couvert Pogacar.
Eh bien, nous verrons cela. Ce ne sera pas pour mardi, mais peut-être à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi et pas dimanche contre la montre. Mais peut-être, pourquoi pas, vouloir battre Remco sur son terrain. Hein, on ne sait jamais avec Poggi.
Oui, et puis dans ses records, il pourrait quand même arriver à un chiffre important, c'est réussir à égaler Jacques Anquetil à 16, donc deux de plus seulement. Et pour les Français, ça serait quand même...
Pour moi, c'est facile, ça.
Dès cette année.
Si, il continue.
Deux victoires.
Parce qu'Anquetil ne se battait jamais pour gagner des étapes. Mm-hmm. Il avait ses contre-la-montre et quelques étapes de montagne, mais lui, c'était le métronome défensif, et quand il pouvait prendre ses adversaires, il les prenait. Mais il ne se battait pas pour aller chercher les gagnes, et puis il avait André Darrigade pour ça.
19h39 sur RMC, l'After Tour revient dans un instant, toujours en direct du plateau de Baye. On va s'intéresser aux battus, aux deux grands battus du jour, même s'ils terminent deuxième et troisième de l'étape. C'est donc Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Que peuvent-ils espérer dans ce Tour de France? Parce que là aussi, le podium semble jouer. Et puis on va aussi revenir sur ces échappées avec des très bons grimpeurs aujourd'hui encore, avec les Hindley, Johannessen et compagnie qui étaient là, mais qui n'ont pas pu aller jouer la gagne à l'arrivée de cette étape. Comment l'expliquer? Et puis on terminera avec les Français. Nouvelle fois décevant dans une étape de haute montagne. À tout de suite.
C'est l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct du plateau de Baye, au terme de la 15e étape du Tour de France. Remporté donc demain de maître par Tadej Pogacar. Troisième succès sur les routes de ce Tour 2024 pour le maillot jaune qui va donc conforter son maillot. On va tout de suite se remettre en mémoire les classements, les écarts justement avec toi, Pierre.
Il y a peut-être des auditeurs qui nous rejoignent, qui ne savent pas ce qui s'est passé, ils reviennent de la plage, pourquoi pas. Et bien Tadej Pogacar a gagné cette étape aujourd'hui au plateau de Baye avec 1 minute 08 d'avance sur Jonas Vingegaard, 10 secondes de Bonif aussi en passant la ligne en premier. Remco Evenepoel a bien terminé troisième, mais à 2 minutes 51 de Tadej Pogacar. Et puis derrière, on a retrouvé Mikel Landa, Almeida, Adam Yates, Buitrago, Rodriguez, Carapaz et Félix Gall. Nos Français sont beaucoup plus loin. C'est Guillaume Martin qui est le premier, mais à la 20e place. Tadej Pogacar au classement général est premier. 3 minutes 09 derrière, on retrouve Jonas Vingegaard, donc un écart qui a encore grandi. Et Remco Evenepoel est troisième à 5 minutes 19. Le quatrième est à près de 11 minutes. C'est João Almeida.
Et on va écouter maintenant justement les grands battus du jour. Le premier d'entre eux, alors c'est lequel pour vous le premier battu du jour? C'est Vingegaard ou c'est Evenepoel?
Aujourd'hui?
Ouais.
Vingegaard. Aucun des deux.
Ah bon?
Aucun des deux. Vingegaard avait le tour perdu.
C'est Rodriguez.
Ouais, voilà, c'est derrière
Carlos
les
Rodriguez
battus.
Carlos Rodriguez qui a abandonné toute possibilité de venir sur le podium.
Bah ouais, Vingegaard a... Le tour était perdu, il a augmenté son avance sur Remco Evenepoel.
Le tour était perdu, il avait peut-être quand même le secret espoir de renverser la table, non, Jérôme?
Non, deux minutes, non, je pense qu'il n'avait plus trop d'espoir du tout, à mon avis. D'ailleurs, s'il avait de l'espoir, il n'aurait pas roulé comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il a roulé comme ça avec son équipe pour éliminer Remco Evenepoel. Et Remco Evenepoel, lui, a consolidé sa troisième place. pour moi. Peut-être, entre les deux, si je devais les départager, c'est peut-être Remco Evenepoel qui, lui, pensait peut-être pouvoir prendre la deuxième place à Vingegaard. Et là, c'est clair que sa place, c'est sur la troisième marche du podium. Mais je ne vois pas de grand perdant dans les deux-là aujourd'hui.
Ok, donc il n'y a que des winners sur
le
Tour de France.
C'est comme chez Jacques Martin.
Tout le monde a gagné, c'est comme dans les élections ou chez Jacques Martin. On va écouter Vingegaard, justement. Bah, il conforte ce que vient de nous dire Jérôme. Il n'a pas perdu aujourd'hui, tout va bien pour lui. Jonas Vingegaard.
Je suis fier de ma course et de celle de l'équipe. L'équipe a couru très fort aujourd'hui. Nous avons rendu la course super difficile, notamment lors de la montée finale. J'étais super fort et j'ai probablement fait l'une des meilleures performances de ma vie. Mais aujourd'hui, Tadej était juste plus fort, donc je ne peux pas vraiment être déçu.
L'une des meilleures performances de ma vie.
Extraordinaire.
C'est un très bon communicant.
On n'a pas parlé des temps d'ascension, puisque les temps d'ascension ont été... Vous vous souvenez, tout à l'heure, vous nous avez dit...
Oui, 43-20 je crois, ou 43-20 pour Pantani.
Là, on est en dessous des 40 minutes pour Tadej Pogacar, ce qui signifie qu'on est à 40 minutes pour
Jonas Vingegaard. J'en connais un qui va s'en donner à cœur, je vois.
Ah ben oui, c'est déjà fait, c'est lui qui a fait le chrono. Donc 39 minutes 48, je crois, ou 46 pour Tadej Pogacar, ce qui fait que... Je ne sais plus combien perd exactement Jonas Vingegaard, mais ça veut dire qu'il fait la montée en 40 minutes et quelques. Un peu moins de 41 minutes.
Ils doivent être trois à avoir battu le record.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment une mauvaise journée, effectivement, pour Jonas Vingegaard? Qu'est-ce que vous voulez qu'il... Le truc, c'est que ce qu'on n'entend pas dans cette interview, c'est que derrière, il explique que de toute manière, Pogacar est plus fort et qu'il n'y a rien à faire. Et que lui, il a fait le maximum qu'il pouvait faire.
Ouais. Ça donne. Juste quand tu es un grand champion, que tu sors de deux tours remportés. Oui. Dire que t'es satisfait de ta performance alors que tu t'as encore pris une minute dans les dents.
N'oublions pas ce qu'il a dit quand même il y a 3 ou 4 jours où on l'avait vu très ému après sa victoire au Lioran, où il expliquait quand même qu'il y a 3 mois il avait frôlé la mort. Non, pardon de revenir là-dessus, alors, mais ça me semble quand même
s'il était arrivé à 100% de sa forme et qu'il prend une claque comme là il n'aurait pas eu le même discours du tout, à mon avis, et ça n'aurait pas été de la communication. T'arrives prêt comme d'habitude, t'as fait tes courses, t'es passé par le Dauphiné, etc., comme il a l'habitude de faire, et à la veille de la deuxième journée de repos, t'es à 3 minutes, ouais, là c'est une claque, là c'est différent. Là, bah, je comprends son interview.
Non, bah après qu'ils nous disent que c'est la plus grande performance de sa vie, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Mais en revanche...
Oui, je suis d'accord.
Il est dans l'euphorie.
En revanche, Cyril, on avait dit après le Lioran, quand on l'avait vu en pleurs, attention à la décompression. Moi, je pense que ce jour-là, le Tour de France, pour lui, était terminé.
Il avait tout validé.
Il avait rempli son défi. C'était de revenir à ce niveau-là après ce qui lui était arrivé. Et on se doutait que derrière, il y aurait la claque... Pogacar.
Alors, il y a une chose que l'on n'évoque jamais, parce que c'est comme ça, les choses ou les informations ou les sensibilités font que... vous parlez toujours de la chute de Vingegaard. Il me semble que Evenepoel était dedans aussi. Et qu'il a aussi été blessé. Et que,
c'était pas la même gravité de blessure, quand même.
Oui, mais...
Les poumons n'ont pas été touchés.
Il a pu recourir. Il a été au Dauphiné, notamment.
Oui, mais il a quand même tapé aussi.
Ah non, mais bien sûr.
Et que,
comme Pogacar l'année dernière, tu as raison.
Ouais. Et à mon avis, le handicap qu'il peut avoir, au minimum, est celui de Pogacar l'an dernier, voire plus. Bon, il a refait un Dauphiné comme il a pu, et tant mieux pour lui. Mais je pense que lui aussi n'est pas à 100% de son potentiel.
D'accord, donc on attend l'année prochaine pour voir
les trois fantastiques. Avec un fantastique qui était à son niveau, en fait.
Oui, parce que Roglic, il était... Parce qu'ils étaient tous dans le même panier, en fait.
Et oui, autour du Pays Basque, les trois...
D'ailleurs,
Roglic était moins touché.
On regarde bien...
Mais bon, comme il tombe tous les jours...
C'est Evenepoel qui tombe, non pas le premier, mais qui était le premier... du peloton quand il tombe. Parce que là, il y a une chute derrière lui, et suite à la chute qu'il y a derrière lui, lui, il va tomber tout seul, et il va aller s'emplâtrer après sur les arbres.
Alors, le troisième homme, c'est donc Remco Evenepoel. Il termine à 2 minutes 51 de Pogacar. Il se retrouve à 5 minutes 19 au général, et surtout à 2 minutes 10 de Vingegaard. Alors, déçu, là aussi, Remco, ou tu as fait la meilleure performance de ta vie?
Je pense que c'est clair encore que Tadej, c'est le meilleur du monde. Jonas, il est pas trop loin, mais je pense que Tadej, il est plus fort que Jonas pour le moment. Et puis, à moi, je pense que je suis le meilleur du reste, mais du coup, le tour n'est pas encore fini. Il y a encore des belles étapes et des étapes très dures à passer, mais pour le moment, tout se passe bien, donc je suis content. Et pour le reste, il faut garder les pieds sur terre, continuer à travailler, continuer à pousser les pédales et puis essayer de consolider cette troisième place.
Voilà, je suis content, je suis le meilleur des autres. Bah oui, c'est ça. C'est assez lucide, je trouve.
Pour lui, comme en fait, pour Vingegaard, il est premier derrière les deux autres. Mmh.
Pour lui comme pour Vingegaard, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils vont pas arriver, oui. Se mettre à pleurer.
Non, voilà, mais de toute façon, c'est vrai. C'est... En plus, il y a et c'était ce qu'on s'attendait au départ. On s'attendait à voir lui meilleur.
Ça déclare, ne choque pas du tout. C'est plutôt Vingegaard qui dit c'est la meilleure performance de ma vie. Là,
ça, c'est de la flûte. Voilà. Il va pas dire autre chose. Mais Remco Evenepoel, il fait un très bon tour. Lui, maintenant, ce qu'il doit faire, c'est éviter le jour 100 parce qu'il en a déjà connu. Et puis, c'est essayer de maintenir sa troisième place au classement général. Alors, il a de l'avance sur Almeida. On ne sait jamais une défaillance. Et puis, il va essayer d'aller gagner le dernier chrono, bien sûr. Et si pour son premier tour, il a déjà gagné une étape, s'il arrive à en gagner une deuxième et à monter sur le podium, à son âge, c'est quand même énorme.
Ouais. Voilà, on verra ce qui se passera dans cette troisième semaine. On espère aussi que les échappés et les baroudeurs vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, parce qu'une nouvelle fois aujourd'hui, ils ont tenté. Hein, une grosse échappée avec du costaud en plus, oui. Jérôme. Il faut rappeler quand même les noms de ceux qui étaient dans cette échappée.
Tu avais deux vainqueurs de Giro, Hindley Carapaz, par exemple, deux anciens porteurs du maillot jaune, Henrik Maas qui a fait podium à la Vuelta. Il y a du monde. Ceux qui tirent le plus la gueule ce soir, c'est pas Vingegaard ou Evenepoel, c'est les baroudeurs. Hein, ouais. Ils ont rien. Alors il y a eu les deux premières étapes, mais après ils ont rien à se mettre sous la dent depuis un petit moment, parce que les gros, ils viennent et ils mangent tout. Et puis on a discuté un peu avec Pierre-Yves tout à l'heure, avec certains directeurs sportifs, et on disait bon, au moins il va y avoir des opportunités dans la dernière semaine. Ils n'étaient pas tous convaincus. Hein. Ils se sont dit non, nous on pense qu'ils vont vouloir tout manger. Et donc ils sont pas.
Ils sont gloutons.
Ils sont un peu de l'avis de Cyril. Ils sont pas convaincus qu'ils laissent finalement beaucoup de choses aux échappés.
Et puis certains nous disaient aussi. Des anciens coureurs, je ne comprends plus rien à la course. Qu'est-ce qui fait Jonas Vingegaard à donner finalement le Tour de France à Pogacar? Parce que c'est vrai que je l'ai dit d'ailleurs dans le direct à un moment, ça a été le poisson pilote aujourd'hui.
Bon, ouais, mais il l'a pas donné.
Il va pour la deuxième place, mais il aurait peut-être pu en faire un petit peu moins.
Mais aujourd'hui, il joue pas la victoire. Aujourd'hui, il joue pas la victoire d'étape, Vingegaard. Il joue la consolidation de sa deuxième place. Peut-être que dans la dernière semaine, il va jouer des victoires d'étape, mais là, ça va courir différemment.
Et parmi donc les coureurs frustrés, ces grands coureurs qui ont remporté des grands tours, qui ont été maillot de leader sur ces grands tours, Richard Carapaz, que tu as rencontré, Arnaud, on va l'écouter tout de suite.
Alors pas frustré, c'est le Tour de France, ça fait des années qu'on assiste à ce genre de scénario. On s'attendait un petit peu à ce que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais bon, on doit continuer à tenter parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. On n'attaquerait pas si on pensait que c'était pas possible de gagner. On a tenté, on va encore tenter la semaine prochaine avec, on l'espère, un petit peu plus de succès, nous dit Richard Carapaz.
Auront-ils plus de succès et plus de victoires la semaine prochaine, Jérôme?
J'espère. Hein. Moi, ça fait tout le week-end pyrénéen que je pensais qu'une échappée allait jouer la victoire. Et les coureurs aussi, d'ailleurs. Parce que quand vous voyez la castagne qu'il y a eu au départ des deux étapes, c'est forcément qu'eux aussi pensaient que l'échappée allait pouvoir aller au bout. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, je pense qu'il va y avoir des opportunités, mais ça dépendra de Pogacar et de Vingegaard.
Parmi les autres frustrés, il y a les Français. Évidemment, c'était 14 juillet, aujourd'hui fête nationale. On a rappelé pendant le direct que des Français par le passé ont fait briller les couleurs bleu, blanc, rouge sur les routes du Tour. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Il y en avait pourtant deux.
Ça donne pas plus de jambes le 14 juillet que les Français.
Non, c'est juste que ça te donne plus de réponses à apporter aux journalistes qui viennent te poser les questions.
Ouais. Hein, plus d'occasions de vous envoyer bouler.
Ouais. Mais non, mais c'est-à-dire qu'avant, il y avait les champions qui gagnaient, quoi.
Mais oui,
les champions français étaient
là, on en a même
un
pas
peu
parlé.
Plus performants.
On en a même pas parlé.
Ouais. Alors, il y en avait deux quand même dans l'échappée initiale. Ils ont vite explosé. C'était Martinez et Martin, le jeune et l'ancien. Le premier français à l'arrivée ici, c'est Guillaume Martin. Qui termine 16e. 16e à 38 minutes de Poggi. Alors, est-il heureux?
Il n'y a pas eu de révolution aujourd'hui pour le 14 juillet. Il n'y a pas eu beaucoup d'espoir non plus. Voilà, très vite, j'ai compris que le seul intérêt d'être dans l'échappée, c'était de prendre une petite marge d'avance au col d'Agnès pour basculer avec le groupe Maillot Jaune. Donc j'ai géré la montée pour le faire. Et ensuite, je savais copier la montée finale. Voilà, je ferais juste ma montée avec l'objectif d'arriver en haut. J'étais pas dans une grande journée, mais je crois que même dans une grande journée, ça aurait pas changé grand-chose.
Alors je me suis trompé, c'est le classement général où il est 16e à 38 minutes, oui. Là il est arrivé.
Il arrive quand même à 13 minutes 31, c'est quand même énorme et il termine 20e.
Voilà, Guillaume Martin, mais il est à sa place, Guillaume. On sent que ce sera difficile de faire mieux, il continue
plafond
de jouer.
Vert.
Pardon, un
plafond de verre, je pense, oui, pour Guillaume Martin.
Il a atteint un moment, ouais.
Oui, mais est-ce qu'il jouait vraiment le classement général au départ? Je ne sais pas. Aujourd'hui aussi, je pense que si, quand il part dans l'échappée, je pense que c'est pour la victoire d'étape. Ouais. J'espère, en tout cas.
Il lâche vite quand même. Il lâche
très vite. Parce qu'après, tu as les jambes ou tu n'as pas les jambes une fois que tu es devant. Il s'est vite rendu compte qu'il ne les avait pas.
Mais enfin, il est aussi dans une équipe où c'est le merdier complet.
Ah oui, oui. Non, mais c'est le bordel dans cette équipe. Ouais. Voilà, le Tour de France, c'est déjà assez dur. Je n'aimerais pas être à l'hôtel avec eux. Le soir à table, ça ne doit pas être fun.
Avoir du mal à t'endormir le soir. Hein.
Ouais.
Enfin, c'est quand même juste, Christophe, assez inquiétant quand même sur la situation des leaders français et de la capacité de voir un garçon un peu plus haut que le top 10, le top 5 dans les prochaines années.
Ça, c'est vrai. David Gaudu nous avait donné de l'espoir avec sa quatrième place, mais là, c'est quand même décevant, décevant.
Très bien. Il a travaillé pour rien, le Jérôme.
Oh, bah, c'est pas ce qu'il avait fait.
On parle en même temps que je parle, donc c'est difficile.
Jérôme, je travaille demain, t'inquiète
pas. Tu travailleras demain.
Je suis pas en repos.
Tu nous parleras de la dernière semaine et de tous ces grands moments qui nous attendent.
Oh,
il y en aura des grands moments, on l'espère. Merci, les garçons. Demain, journée de repos.
Mais oui,
pas pour tout le monde, puisque Cyril et Jérôme, quand même, vont travailler.
Mais pour nous, ça va nous faire du bien, parce que 15 jours à travailler, à compenser.
À compenser les manquements de nos consultants, c'est ça que tu veux dire.